Alors voilà, nous allons reprendre notre texte ici où Pierre parle beaucoup de l'Évangile. 1 Pierre chapitre 1. Et nous allons lire aujourd'hui à partir du verset 10. Ce sera un rappel d'hier soir. 10 jusqu'au verset 21. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 21. Donc les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, en fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, qui voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles se seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint, et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Voilà, Évangile puissance 4. C'est notre thème ce week-end. Puissance 4, il y a ce jeu. Vous mettez les pièces pour gagner. Eh bien, comme nous avons vu hier, voilà, pour gagner un tour de puissance 4, il ne suffit pas de simplement poser le premier, mais d'avoir les quatre alignés. Et c'est pareil dans la vie chrétienne. Il ne suffit pas de l'Évangile au début, où l'on pose effectivement comme base de notre conversion, mais ici et tout le Nouveau Testament nous encourage à l'intégrer, en faire une partie intégrale de toute notre vie chrétienne. Et c'est ça la puissance de l'Évangile. Alors maintenant, c'est un peu la suite. Après la conversion vient une vie chrétienne, une vie de croissance. La dernière fois, nous avons dit que l'Évangile est comme une semence qui crée une nouvelle vie. Et justement, une nouvelle vie, une nouvelle naissance, on va vouloir voir la croissance. Bien sûr, grandir, croître, ce n'est pas une question de devenir davantage un être humain. Un bébé est tout autant un être humain qu'un adulte. Un jeune chrétien tout frais dans la foi est tout autant un chrétien qu'un chrétien mûr. Mais il y a place pour la croissance, pour la maturité, pour le progrès. Ça, c'est très important à comprendre. Bien sûr, un enfant de Dieu, il ne peut pas devenir davantage un enfant de Dieu. Un enfant de deux jours n'est pas moins un enfant qu'un garçon de 18 ans. Même un enfant qui a passé une mauvaise semaine, qui a fait pas mal de bêtises dans la semaine, eh bien, il n'est pas moins un enfant de ses parents qu'une bonne semaine, où il a passé une bonne semaine sage, obéissant. Et voilà, en tant que chrétien, c'est pas parce qu'on a passé une mauvaise semaine avec Dieu qu'on est moins son enfant. C'est peut-être justement dans ces semaines-là qu'il pense encore plus à nous. Hein. C'est quand vos enfants sont désobéissants que vous les, vous vous en occupez d'autant plus. Eh bien, c'est une bonne nouvelle pour la vie chrétienne. Voilà, notre état de maturité, elle va grandir. Ça change pas le fait qu'il y a une vie, qu'il y a une nouvelle naissance, comme nous avons vu hier. Bien sûr, il y a toujours place pour la croissance et la transformation. Et c'est ce que Pierre veut aider les chrétiens à vivre ici. à progresser malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les freins. Il veut les aider à avancer. Alors, si vous êtes chrétien, j'imagine que probablement vous aspirez à devenir meilleur chrétien. Et si vous n'êtes pas chrétien, certainement vous connaissez des chrétiens que vous pensez devriez être de meilleurs chrétiens. Donc, en cela, on est tous d'accord finalement. Les chrétiens ont du progrès à faire. Mais la Bible envisage la chose ainsi, et ça c'est une bonne nouvelle. Alors, entre nous, entre chrétiens, le mot que nous aimons utiliser pour décrire ce progrès, cette maturité, eh bien c'est la sanctification. Certainement, on s'inspire des versets comme ici, où Pierre dit, comme les versets 16 et 17, « Soyez saints ». Soyez saints, poursuivez cette sainteté, cette conduite sainte. On n'a pas lu, mais hier on a lu, verset 2, il parle de la sanctification de l'esprit. Donc, effectivement, c'est ainsi qu'on parle de cette croissance, cette maturité. On avance vers la sainteté de Dieu. Alors, vous allez dire encore un message sur la sanctification. Effectivement, ce sera encore un message sur la sanctification. Voyons si on peut quand même... dégager des principes très utiles. Alors, on va voir tout d'abord deux manières de concevoir la vie chrétienne, cette recherche de sanctification qui, à mon sens, ont des lacunes, sont incomplètes, sont déficientes. Et puis, on va voir une troisième qui est la bonne, celle de Pierre, celle du Nouveau Testament. Donc, deux manières déficientes, une manière efficace pour concevoir la vie chrétienne, la sanctification. Alors, d'abord, les deux manières limitées, incomplètes, qui pourtant reviennent souvent, je trouve, dans même nos milieux, et puis une bonne manière. Tout d'abord, première manière de concevoir la sanctification, c'est avec ce mot-clé qu'on trouve même ici dans ce chapitre, obéissance, par pure obéissance. On peut lire ce passage, effectivement, et conclure que le secret, la clé de la vie chrétienne, c'est voilà, l'obéissance, c'est la soumission. C'est-à-dire, pour avancer dans la vie chrétienne, les chrétiens doivent exercer une force de volonté et de résolution et de se dire, voilà, j'obéis, je dois obéir en toute chose, obéissons. En effet, Pierre parle beaucoup de l'obéissance ici. Dans les premiers versets, c'est un peu le but. Verset 2, voilà, et on est élu par Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin de devenir obéissant. Donc, c'est quand même très important, l'obéissance. Verset 14, on retrouve le mot. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous y aviez autrefois. » Verset 22, le mot y est encore. « Ayant purifié vos âmes en obéissant. » Donc, c'est sûr, de toute manière, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, l'obéissance est très importante. Et parfois, on a besoin d'entendre ça, c'est sûr, pour une culture, notre culture française qui est très méfiante par rapport à l'idée de l'autorité, de la soumission. On n'aime pas qu'on nous dise ce qu'il faut faire parfois. Eh bien, parfois, cela nous est nécessaire, salutaire, d'entendre, voilà, Dieu est notre Seigneur, notre Maître, nous devons obéir. Mais si notre unique motivation dans la vie chrétienne, c'est uniquement un sentiment de devoir aux ordres du grand chef, vous allez voir, il y a de très fortes chances que cela ne marche pas, et que cela nous épuise, nous déçoit, ou nous rend pire, plutôt que nous rendre meilleur. Pensez à ça. Pourquoi je dis ça? Eh bien, pensez au militaire. Le militaire est très fort pour ça. Ils arrivent à inculquer un réflexe d'obéissance et de soumission. Ça, c'est leur spécialité. Ça marche très bien pour les troupes en combat. Alors, ils arrivent à inculquer un principe de soumission et d'obéissance. Le problème, c'est que, on connaît, les militaires, ils sont très contents de quitter le militaire, de quitter le service. Ils sont très contents de terminer leur service et de retrouver la liberté. Alors, si on envisage la vie chrétienne uniquement comme un service militaire, il y a de fortes chances que cela ne transforme pas le cœur et qu'on aura une mauvaise conception de Dieu. C'est pareil dans une famille. Paul, il parle ici des enfants obéissants envers le Père céleste. Mais vous-même, vous connaissez des bonnes familles, des familles moins bonnes. Peut-être vous avez connu, vécu dans ces familles. Vous savez très bien que si l'unique rapport entre le Père et le Fils, c'est les ordres, la dureté, la soumission, l'obéissance, vous savez très bien que ça ne va pas marcher. À la longue, ça ne va pas marcher. Si vous connaissez des enfants obéissants, si vous les voyez obéissants, vous pouvez être sûr que dans la famille, il n'y a pas que la rigueur et les règles et l'imposition d'obéissance. Vous pouvez être sûr qu'il y a plus. Et qu'il y a plus pour que les enfants soient obéissants. La rigueur en soi ne transforme pas les cœurs. Je pense à un autre exemple, peut-être parlant pour les Français, vous connaissez le code de la route. Alors, pour nous aider à obéir, pour nous imposer une obéissance à ce code de la route, qu'est-ce qu'on a fait dernièrement en France? On nous a mis des radars. Partout, maintenant, ils sont partout des radars. Alors, les radars ont été très efficaces en France pour imposer une obéissance. Ils ont trouvé quelque chose de très fort, très efficace pour changer le comportement des Français. Mais vous savez comment ça se passe. Devant le radar, on ralentit, on est tout sage, tout obéissant. Et puis une fois passé le radar, voilà, on accélère de nouveau pour retrouver la vitesse, la liberté. Vous voyez, si la vie chrétienne, si on envisage la vie chrétienne comme ça, il y a un problème. Si Dieu est un radar, c'est vrai. Si on a cette conscience que Dieu est radar, eh ben, ça peut changer notre comportement. Ça peut, effectivement, on pourrait arriver à faire les choses comme il faut, peut-être. En tout cas, le dimanche matin, c'est comme le passage devant le radar. On se présente bien, tranquille, sage, obéissant au culte. Et puis la semaine, le radar n'y est plus. Alors, vous voyez, ça peut marcher pour un temps, mais la vraie transformation ne va pas s'opérer. C'est uniquement, on a cette conception de la vie chrétienne comme obéissance. Obéissance, soumission, règle, radar. Et je pense que beaucoup, en dehors de l'Église, en dehors de la foi chrétienne, et ils observent, ils regardent à l'intérieur, ils nous observent, et puis eux, ils associent la vie chrétienne à cette privation de liberté, tout le temps de l'obéissance, de la soumission, tout ça, et ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas, c'est ainsi leur conception de la vie chrétienne. Et parfois, on ne peut pas les blâmer, parce que si dans notre manière de vivre, dans notre manière de présenter, dans notre manière d'enseigner, dans notre manière de prêcher, dans notre manière de faire l'Église et d'envisager la vie chrétienne, on peut donner cette impression qu'effectivement, pour réussir, il y a juste l'obéissance à exercer. Et ce n'est pas ça. J'ai une histoire que je lis à mes enfants. C'est toute une série d'histoires. Et deux personnages, c'est Grenouille et Crapaud. Deux amis, Grenouille et Crapaud. Et dans une des histoires, il y a un jour, Crapaud, il visite son ami Grenouille chez lui et il voit que Grenouille, il a un beau jardin, il est en train d'arroser son jardin, des jolies fleurs et tout ça. Il dit, dis donc, ça donne envie, un si beau jardin, moi j'aimerais ça. Alors Grenouille dit, d'accord, bon, je peux te donner quelques graines, quelques semences. Après, tu les plantes et voilà, tu auras un jour, toi aussi, un beau jardin. Alors, Crapaud, il est tout content, il prend ses graines, il va chez lui, il plante les graines dans la terre, et puis il regarde quelques minutes, il attend quelques minutes, et il voit rien. Alors, rien se passe, alors il commence à leur parler, à ses graines, en disant, bon, ok, allez-y, croissez, allez-y, croissez. Rien, il ne voit rien, aucune transformation, aucun changement. Alors là, il se dit, c'est bizarre. Alors, il commence même à parler plus fort, carrément à crier, croissez, poussez, croissez, poussez. Rien. Alors, c'est pas possible. Donc, il met carrément sa bouche contre le sol et il crie de toutes ses forces, croissez, poussez. Eh bien, finalement, la croissance, vous savez, n'est pas comme ça. La croissance n'est pas comme ça. Et je pense que moi, j'ai déjà utilisé cette méthode pour les chrétiens. Voilà. Obéissez. Croissez. Poussez. Qu'est-ce que vous attendez? Et puis, on se dit, mais pourquoi ça bouge pas? Ils sont sourds ou quoi? Mais en fait, si vous regardez bien ce chapitre, c'est pas comme ça que Pierre se prend. Il veut la croissance, il veut la transformation, il veut que les chrétiens grandissent, mais il fait plus que simplement leur crier « Obéissez, obéissez, obéissez et obéissez davantage. » C'est pas comme ça que le Nouveau Testament se prend, ni le Nouveau Testament, ni l'Ancien Testament d'ailleurs. Il va falloir quelque chose qui travaille de plus en profondeur. La vie chrétienne est bien plus passionnante, bien plus grande que ça. Donc, une conception de la sanctification qui est déficiente, si on la limite simplement à une affaire d'obéissance. Deuxième conception de la sanctification, on a vu par simple obéissance, cette fois-ci ce sera par simple imitation. Il y a une autre manière de concevoir la vie chrétienne qui n'est pas entièrement fausse et qui peut être utile. Et là, cette fois-ci, on se dit que la clé, le secret pour la sanctification, c'est l'imitation, c'est imiter Jésus-Christ. C'est la ressemblance à Jésus-Christ, la ressemblance à Dieu. Et c'est sûr, quand on parle de sanctification, combien souvent on revient à l'exemple de Jésus-Christ, à devoir l'imiter, à devoir le ressembler. Tout comme l'obéissance, c'est aussi le but. On chante souvent, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Et on pouvait s'appuyer sur plusieurs versets dans ce chapitre pour se motiver dans ce sens-là, l'imitation, parce que justement il dit en verset 15, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. » Donc, tel père, tel fils, ça c'est une bonne recette pour la vie chrétienne. Notre Père céleste est saint. Il veut que ses enfants le ressemblent et soient saints. C'est normal que les enfants ressemblent à leurs parents. Et les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, vont forcément ressembler à leur Dieu, notamment dans ce domaine de la sainteté. Et puis on connaît l'apôtre Paul, qui est aussi très axé sur la ressemblance à Jésus-Christ. D'autres passages, je pense à ces versets en Romains 8, « Vous avez été choisis et puis prédestinés pour être semblables à Jésus-Christ. » Alors, c'est vrai que de nombreux versets dans la Bible nous disent d'imiter Dieu, d'imiter Jésus-Christ. Et cette pensée, cette technique de sanctification peut s'avérer très utile dans notre vie chrétienne. Mais pareil, encore cet après-midi, je dis que si vous limitez la vie chrétienne uniquement à une affaire d'imiter Jésus-Christ, vous risquez de rencontrer quelques problèmes et quelques découragements. Je sais, en tant que pasteur, parfois, j'ai l'occasion de m'entretenir avec des gens, avec des personnes, quelqu'un lutte contre tel péché, telle difficulté dans la vie et qui est découragé. Alors, en tant que pasteur qui veut conseiller, qui veut aider, qu'est-ce que je dis? Je lui dis, bon, si tu veux avoir la victoire, si tu veux avoir l'encouragement, il suffit de faire comme Jésus. Il faut faire comme Jésus. Alors, quelle est la réponse systématique quand je dis ça aux gens ou quand quelqu'un vous l'a dit? On dit, oui, mais Jésus c'est Jésus, Jésus c'est Dieu, Jésus est parfait, et voilà. Et je pense que ça dévoile une conception limitée de la vie chrétienne, de la sanctification, il faut faire comme Jésus. Oui, mais Jésus, il est Dieu. Oui, Jésus, mais c'était Jésus, il était parfait. Et je pense que ça dévoile une conception limitée, à la fois chez la personne qui conseille, à la fois chez la personne qui reçoit le conseil, quand voilà, il n'y a que ça. Si je veux améliorer mon jeu de tennis, moi, j'aime bien le sport, mais le tennis, j'ai jamais eu l'occasion de faire, donc je suis nul en tennis. Voilà. Alors si on me dit, il suffit de faire comme Rafael Nadal. Alors, j'ai dit, d'accord, c'est très bien, maintenant je pourrais vraiment apprendre. Donc, je regarde plein de vidéos de Nadal, je, je l'étudie à bloc, je me passionne de lui. Et puis, le jour vient, je sors sur le terrain avec ma raquette entre mes mains. Et puis, très tout passionné par maintenant ce jeu de tennis, parce que j'ai tellement regardé Nadal et tous ses exploits. Et puis, je commence à jouer. Et même si je fais mon mieux, curieusement, je suis assez nul. Alors, on vient me dire, bah oui, évidemment, là, tu n'as pas fait comme Nadal. Ah ben, là non plus. Et puis là, lui, il fait comme ça. Tu l'as pas ressemblé, tu l'as pas imité comme il aurait fallu. Et je dis, oui, mais j'arrive pas. Vous voyez, l'imitation a ses limites. Surtout quand il y a un très grand décalage entre le maître qu'il faut imiter et puis l'apprenti, le disciple, est dans ses capacités. Vous voyez, si Jésus n'est qu'un modèle pour nous, s'il n'est qu'un modèle, ben cela va être décourageant. Cela va être décourageant. On va juste réussir à se culpabiliser en permanence. Regarde ce que lui a fait, il a toujours fait bien. Hein, et moi, j'arrive jamais à faire bien comme lui. Alors, deux conceptions, le problème finalement avec ces deux conceptions de la sanctification, du progrès dans la vie chrétienne, s'il n'y a que ça, quand on creuse un peu, bien finalement ça n'a rien de différent, on ne propose rien de différent aux chrétiens que d'autres religions proposent à leurs adeptes. Si on réduit la vie chrétienne uniquement au simple devoir d'obéir à la soumission, c'est quoi ? C'est l'islam. L'islam, ça veut dire soumission. C'est ce qu'on veut dans l'islam, inculquer une soumission. Ils arrivent assez fort à inculquer cette soumission. D'autres religions fonctionnent comme ça. Si, au fond de ma pensée, au fond de mon cœur, je finis en tant que chrétien à dire, voilà, plus j'obéis, plus Dieu m'aime, qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de quitter le schéma de l'évangile, je viens de quitter l'évangile et de basculer dans un système d'une religion. Plus que j'obéis, plus que Dieu m'aime. Est-ce que c'est l'évangile qui vous a appris ça? Non, l'évangile vous a appris tout le contraire. Ce n'est pas plus que j'obéis, plus que Dieu m'aime. Alors, nous on dit oui, on ne croit pas ça. Nous on est des chrétiens évangéliques. On ne croit pas cette formule, plus que j'obéis, plus Dieu m'aime. Mais creusons un peu. Soyons honnêtes avec mon épouse, on s'est rendu compte que quand on creuse un peu, là où ça va nous attraper en tant que chrétien évangélique, creusons le matériel pour nos écoles de dimanche, le matériel de l'enseignement d'enfants, et vous allez voir que beaucoup, souvent le piège c'est de glisser justement dans ce moralisme, quand tu obéis, Dieu t'aime, quand tu n'obéis pas, Dieu ne t'aime pas. Alors, on va trouver des histoires dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, et puis la leçon qu'on va leur faire, c'est voilà, si tu es honnête, Dieu va te bénir. Si tu n'es pas honnête, il n'y aura pas de bénédiction. Alors, dites-moi, en quoi c'est différent des religions du monde? Parce que, vous creusez les religions, tout le monde, la quasi-totalité des religions enseigne la valeur de l'honnêteté. Et avec la même idée, si tu es honnête, tu seras béni, tu seras récompensé. Si tu n'es pas honnête, ça va mal se passer. Est-ce que c'est ça notre message, notre évangile, notre force? Le problème aussi avec cette démarche, obéissance, si jamais on réussit, tant bien que mal, à inculquer cette obéissance, à arriver à une vie correcte, obéissante, si on réussit, ben, souvent ça monte à la tête et on s'en glorifie. C'est le pharisien qui monte au temple. Je te rends grâce, Dieu, de ce que je suis obéissant. Je te rends grâce, Dieu, de ce que je ne suis pas comme les autres. Je te rends grâce, Dieu, que ce que moi, j'ai réussi à mieux obéir dans ce domaine et dans ce domaine que celui là-bas. Vous voyez, quand on réussit cette méthode, l'obéissance, trop souvent, on s'en glorifie, il y a une propre justice qui s'installe. Et finalement, c'est tout le contraire de la sanctification. La sanctification, le but, c'est de pas avoir des gens plus orgueilleux et plus propres justes. C'est tout le contraire. Alors, si on réussit, ça crée des orgueilleux. Et si on échoue, si on n'arrive pas à l'obéissance, si le radar nous rattrape, Ah ben là, on se décourage, on se culpabilise, on se sent tout petit, on se déprime parce qu'on n'arrive jamais à tenir le niveau d'obéissance demandé par notre entourage chrétien. Donc, vous voyez, c'est quand même pas l'idéal d'avoir une église remplie soit de gens qui réussissent et qui sont propres, justes et orgueilleux, soit des gens qui échouent et qui sont déprimés et découragés. Donc, le réduire purement à l'obéissance, si tu obéis, Dieu t'aime, si tu n'obéis pas, Dieu t'aime pas, ça a des lacunes. Pareil pour le modèle, d'autres religions vont vous offrir un modèle. Le bouddhisme vous propose Bouddha, grand modèle d'une vie morale correcte. Et ça, on peut en trouver partout, des exemples honorables, des exemples avec une vie exemplaire, qu'on peut regarder et essayer d'imiter. Mais on va même trouver pas mal d'exemples de vie noble qui ne sont pas chrétiens. Parfois, vous allez trouver en dehors de l'église chrétienne des gens qui sont parfois plus corrects, qui ont une vie plus équilibrée, plus normale, plus que vous pouvez trouver dans l'église. Alors, si c'est juste imitation, et là encore, la véritable transformation depuis l'intérieur et qui nous change tout, qui change le cœur et les motivations, qui nous fait grandir, là, ça risque de ne pas s'opérer. Donc, on a vu une méthode, une manière, l'obéissance, qu'il y a, s'il n'y a que ça, il va avoir des lacunes. On a vu une deuxième, là, l'imitation, s'il n'y a que ça, il va avoir des lacunes. Maintenant, je vous propose que Pierre nous offre une autre manière de concevoir la sanctification, la transformation. Et cette fois-ci, c'est la voie de la rédemption. Dieu nous offre plus que simplement des ordres. Dieu nous offre plus que simplement un modèle. Dieu nous offre un rédempteur. Un rédempteur. Et ça, c'est très puissant. C'est encore la puissance de l'Évangile pour nous sanctifier. Parce que, comme je dis, et comme vous avez tous vu clairement dans ces versets, c'est évident, Pierre veut produire l'obéissance, il veut produire la sainteté, il veut produire une croissance chez ses chrétiens. Mais pour cela, il leur donne un raisonnement qu'il ne faut pas rater, et que parfois nous, on ne fait pas le lien, mais il leur donne un raisonnement qu'il ne faut pas rater. Il dit là, donc déjà, verset 13, « C'est pourquoi, Seigneur, les reins de votre entendement. » Puis verset 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises. » Verset 15, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saint. Selon qu'il décrit, vous serez saint, car je suis saint. » Et puis verset 17, « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Et puis verset 18, c'est là, il dit, « Sachant que, vous savez que, sachant que, ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans tache. » Vous voyez ce qu'il leur dit? Il dit, vous allez vous conduire autrement, vous allez vous aller vers la sainteté si vous vous rappelez que vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. Si vous vous rappelez que vous avez un rédempteur, eh bien, ça va vous donner une puissance. Donc, soyez saints, sachant que vous avez été rachetés. Et dans ce schéma-là, Christ n'est pas simplement un maître, il n'est pas simplement un modèle, il est un rédempteur, il est un substitut, il est un messie, un agneau. Alors, c'est évident que quand il parle ici d'être racheté, il a en tête la grande histoire de rédemption qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Exode. L'Exode, où justement il y avait la Pâque et l'agneau et le sang. Et justement, cette histoire de la sortie de l'Égypte, c'est une histoire de rédemption. Surtout une histoire de rédemption par le sang de l'agneau. Vous connaissez l'histoire, le peuple était esclave, mais ils ont été libérés, ils ont été rachetés. Et à partir de ce moment-là, quand ils étaient libérés, quand ils se retrouvaient dans cette nouvelle vie de liberté, cette nouvelle vie avec Dieu, eh bien, Dieu leur rappelle souvent, vous avez ça partout dans la loi, il va leur dire, il va leur dire d'être saint, mais chaque fois, il précède la chose d'une phrase, et certainement Pierre, il en pense, parce que quand il cite ce verset, « Vous serez saints car je suis saint », c'est la moitié d'un verset, et vous l'avez la suite plusieurs fois en Lévitique. Mais par exemple, en Lévitique chapitre 11, 45, voilà ce que Dieu dit, il dit, « Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Dieu le fait constamment. « Je suis le Dieu qui vous ai fait monter d'Égypte, donc maintenant vous allez être saints parce que moi je vous ai libéré, moi je vous ai racheté, moi j'ai payé le prix. Moi, votre manque de sainteté, votre manque de liberté, eh bien c'est moi qui l'ai fourni, c'est moi qui l'ai payé. Maintenant, vous serez saints, vous allez être saints parce que, à cause de ce que j'ai fait. J'ai payé votre liberté, maintenant jouissez-en. » Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Et c'est là ce qui va vraiment nous transformer et nous aider à vivre autrement. Quand on rappelle du contenu encore de l'Évangile, l'œuvre de l'Évangile dans nos vies, quand on la médite, quand on la laisse pénétrer dans le cœur, quand il envahit toutes les parties de notre être, il ne peut que nous transformer. Hier, j'ai parlé des Misérables, hein, l'histoire de Victor Hugo. Alors, je reviens. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est un autre endroit dans l'histoire. Très fort, c'est plutôt au début. Là, hier, on a vu un peu la fin. Mais au début, justement, il y a ce caractère principal, il y a Jean Valjean. Et au début, il vient de sortir de prison. Il a fait 19 ans en prison pour vol multiple. Il a volé, puis il a essayé de s'évader, il a revolé. Donc, 19 ans pour vol multiple. Alors, il sort, mais en fait, c'est un criminel. Alors, il a beau avoir sa liberté, il est frappé de... Tout le monde le reconnaît comme un criminel. Personne veut de lui, il a l'air trop dangereux. Personne ne veut l'ébriter, l'héberger, l'aider. Mais à un moment, il arrive et il y a cet évêque de Digne, de la ville de Digne, qui l'accueille gentiment, fraternellement, qui l'accueille dans sa maison. Mais pendant la nuit, pour Jean Valjean, c'est trop fort, c'est plus fort que lui. Il a vu les couverts en argent pendant le repas, et c'est plus fort que lui. Pendant la nuit, il vole tout l'argent, les couverts de la maison, et il s'en fout. Alors, le lendemain, il se fait rattraper par les gendarmes, par la loi, qui l'attrape vite et qui le ramène chez l'évêque pour qu'il soit condamné. Et donc, ils arrivent chez l'évêque et à ce moment-là, l'évêque sort vers lui et dit « Mon ami, je vous ai donné les chandeliers aussi. Pourquoi vous ne les avez pas pris ?» Alors, il voit ça, il est bouleversé par un tel geste. Les gendarmes disent « Ah, donc il n'est pas coupable. » Il dit « Non, vous pouvez partir, messieurs. » Et après, il lui dit tout bas à Jean Valjean, il dit « Vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. » Et puis, il lui donne les chandeliers, il dit « N'oubliez pas. » Et le reste du livre, c'est la beauté de cette histoire, ce livre, ce roman, c'est effectivement cet homme, un nouvel homme qui est transformé, et toute sa vie, il se rappelle, il garde ses chandeliers sur toute sa vie avec lui, et il pense toujours à ça, et c'est ça qui le transforme, il devient un homme compatissant, rempli d'amour, qui ne fait que sauver les autres avec ce geste. Et ce qui est fort là, c'est que, voilà, la loi n'a pas pu le transformer. Le simple devoir d'obéir, voilà, c'était un voleur. C'est pas ça, c'est pas les gendarmes qui l'ont transformé en impliquant la loi à l'obéissance. C'est ce geste de grâce, de rachat, il a été. Quelqu'un a payé. C'est ça qui l'a bouleversé. Et on voit bien dans cette histoire de la puissance de la grâce, la puissance du rachat. Je vais vous lire l'extrait. Que Hugo il décrit toutes les pensées de son âme de manière très forte, mais c'est juste après ce coup, et on lui laisse libre, Et il a 19 ans de vie criminelle devant lui. Et voilà ce qu'il dit. Il sentait indistinctement que le pardon de ce prêtre était le plus grand assaut et la plus formidable attaque dont il eût encore été ébranlé. Que son endurcissement serait définitif s'il résistait à cette clémence. Que s'il cédait, il faudrait renoncer à cette haine dont les actions des autres hommes avaient rempli son âme pendant tant d'années et qui lui plaisait. Que cette fois, il fallait vaincre ou être vaincu, que la lutte, une lutte colossale et définitive, était engagée entre sa méchanceté à lui et la bonté de cet homme. Et ce qui est fort, c'est que si lui, dans cette histoire qui finalement n'est qu'une histoire fictive, inventée, mais si lui était transformé par des chandeliers en argent, combien plus nous, quand on découvre qu'on nous a payé, on nous a donné pas des chandeliers en argent ou en or, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est tellement fort. Tout amour qui se sacrifie pour nous a l'effet de nous transformer. Tout amour qui se sacrifie pour nous a l'effet de nous transformer. Si on la rejette, on sera transformé, mais on sera transformé en monstre. Si lui, Jean Valjean, s'il avait poursuivi sa vie dans le crime, là c'était fini après un tel geste d'amour. Mais alors, un tel geste d'amour, si on le rejette, ça va nous transformer forcément, mais en monstre, en pire. Un tel geste d'amour, si on l'accepte, si on le reçoit, ben ça va nous transformer, mais en bien, en meilleur, en sainteté. Et ça, c'est obligé. Même pour les enfants, quand les enfants grandissent et découvrent les sacrifices que les parents ont fait pour eux, s'ils les méprisent, eh ben, les enfants deviennent endurcis et durs et ils partent dans le décor. Si les enfants se rendent compte des sacrifices que les parents ont fait et se sont touchés, voilà, ils ne peuvent que vouloir devenir des meilleures personnes pour honorer leurs parents, pour quand ils prennent conscience des. Et ça, c'est juste un petit geste d'amour que les parents font vers les enfants, combien plus l'amour manifesté par l'Évangile envers nous. C'est ça la force de l'Évangile, c'est ça la force du sang de l'agneau. C'est comme le dit verset, c'est un assaut formidable contre nous, contre notre péché. On ne peut pas juste rester comme ça si on mesure ce que Christ a fait pour nous à la croix. Quand on regarde à la croix, quand on regarde ce sang de Jésus, quand on mesure côté précieux ce que ce geste représentait de rachat, eh ben, il y a une double action qui est tellement bénéfique pour nous les chrétiens. Quand on re-regarde à la croix, ben, d'un côté, quand on voit la croix, on ne peut pas sympathiser ou minimiser le péché. Parce qu'on voit sur la croix ce que le péché fait, on voit ce que ça a coûté, on voit que cela, ce qu'a coûté Christ. Donc, d'un côté, on ne peut pas dire que le péché est moindre et minime ou que je peux le tolérer dans ma vie. Quand on regarde à la croix, c'est choquant, le côté terrible, affreux, méchant du péché. Mais d'un autre côté, quand on regarde à la croix, on ne peut pas se culpabiliser, on ne peut pas se décourager, on ne peut pas se déprimer, parce que quand on regarde à la croix, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit Christ qui a voulu payer pour nous, qui a fait ça exprès pour nous. Donc quand on regarde à la croix, on ne peut pas minimiser le péché, mais on ne peut pas non plus se culpabiliser. Et cette double action, c'est exactement ce qu'il nous faut dans la vie chrétienne pour nous faire avancer, parce qu'on ne veut pas minimiser le péché dans notre vie, mais on ne veut pas non plus constamment se culpabiliser, se déprimer, de dire, voilà, de toute manière, je n'arrive pas, de toute manière, je suis tellement loin du modèle parfait. La croix dit que nous sommes beaucoup plus pécheurs que nous osons admettre et nous sommes beaucoup plus aimés que nous osons espérer. Hein? La croix dit que nous sommes beaucoup plus pécheurs que nous osons avouer et nous sommes beaucoup plus aimés que nous osons espérer. Parce que ça nous dit qu'on est plus pécheurs parce que c'est ça qu'a coûté Christ, mais beaucoup plus aimé parce qu'il a voulu le faire. Et c'est ça qui est parfait pour nous les chrétiens, parce que ça nous garde de l'orgueil, d'un côté, cela nous garde de dire, voilà, j'ai bien réussi ma sanctification, je suis quand même bien avancé. Aucun chrétien ne devrait le dire. Mais d'un côté, ça nous garde du désespoir de dire, oh là là, j'ai tellement... Le but est tellement loin, j'ai tellement peu progressé dans cette obéissance, cette sanctification, que pour moi, il y a... Non. Ça nous garde et de l'orgueil et du désespoir de regarder à la croix. Et à force, quand on regarde ce sang de Christ, ce rédempteur, lui qui a fait le travail à notre place, eh bien, c'est ça qui rend possible notre obéissance. L'Évangile dit que Christ, il a vécu la vie que nous aurions dû vivre et il est mort de la mort que nous aurions dû subir. Et c'est ça qui nous libère vers l'obéissance, de savoir il a déjà obéi, il a déjà fourni l'obéissance que moi je dois fournir. Donc, c'est déjà fait. Quelqu'un dit que la sanctification, c'est la recette, c'est simple, c'est devenez ce que vous êtes. Alors, pour ceux qui connaissent voilà, ce qu'enseigne la Bible par rapport au salut, la justification, la sanctification, c'est ça, devenez ce que vous êtes en Christ. Dieu nous voit en Christ parfaitement saint, parfaitement juste, parfaitement obéissant, parce qu'il nous voit à travers le Christ. Et maintenant, il dit, vous l'êtes déjà. C'est bon, c'est réglé, vous l'êtes déjà. Maintenant, devenez, progressez, devenez quotidiennement, réellement, dans vos actions, dans vos pensées, devenez ce que vous êtes déjà. Et ça, c'est fort de savoir, il n'y a plus l'épée de Démoclès qui est suspendue sur nos têtes, et de savoir qu'elle était enlevée, ça nous donne envie de vivre. On fait cette formation chez nous à Éphèse, je l'ai parlé hier soir. Les étudiants, ils ont des livres à lire, les livres qui sont imposés. Ça fait partie de leur obéissance, de lire ces livres et on essaie de les faire lire les livres. Mais souvent, ils nous disent, mais oui, mais nous, on est des étudiants et dès qu'un livre est obligé, obligatoire, imposé, on veut pas le lire. On perd la motivation. Et on essaie de le dire, mais oui, c'est des bons livres. Certainement, vous les lirez autrement. Mais oui, on comprend, mais c'est parce qu'il faut les lire, parce qu'il faut les rendre et tout ça. On a du mal. Et la vie chrétienne, ce qui est beau, c'est qu'elle enlève ça, le salut en Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ. Dit, bon, c'est comme si vous avez déjà tout fait, tout rendu, tous les devoirs, parfait, vous avez déjà la note. 20 sur 20. Maintenant, une fois qu'on sait qu'on a déjà 20 sur 20, ben ça donne envie de lire ces livres, ça donne envie de progresser, ça donne envie de s'intéresser finalement à ce sujet de la sainteté, à l'obéissance. C'est très fort. Donc, oui, ne partez pas d'ici en disant le prédicateur a dit qu'il faut pas obéir, c'est merveilleux, ou qu'il faut pas ressembler à Jésus-Christ, c'est merveilleux. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la sanctification... C'est l'Évangile qui le produit, et ce que l'Évangile produit, c'est justement un envie fort d'obéir et les moyens de le faire. Donc c'est plus une question de mettre la charrue avant les bœufs qu'autre chose. Disons que les bœufs, c'est la force et l'Évangile qui tire notre vie. La puissance et l'énergie est dans la croix, dans l'Évangile. C'est ce que Jésus a fait pour moi. Et puis la charrue, c'est... Charrue, c'est notre obéissance, c'est notre imitation, c'est notre sainteté. Et l'important, le principal, c'est pas détacher les bœufs de la charrue, sinon ça n'avance plus. L'Évangile n'est pas juste le B.A.B.A. de la vie chrétienne, l'Évangile c'est le A à Z, c'est le Alpha et Oméga. Et c'est ce que je vous laisser ce week-end, c'est pas juste le B.A.B.A., qui nous aide à devenir chrétien et après quoi on faut surtout s'intéresser aux règles et à l'obéissance et tout ça. Non, c'est pas juste le B.A.B.A. de la vie chrétienne, c'est le A à Z. C'est la puissance de Dieu de nous sauver, de nous sanctifier, de nous amener sains et saufs dans le ciel. L'Évangile, c'est pas une première marche dans la vie chrétienne après quoi on passe à autre chose. L'Évangile, c'est plus comme des rails sur lesquels le train de notre vie chrétienne doit toujours rester attaché. Cela ne veut pas dire, pour terminer, que la sanctification coule de source, ou que c'est un projet facile pour la vie chrétienne. Voilà, tout est déjà fait, c'est merveilleux, on a un rédempteur. Non, ici, il va quand même, il leur parle, il dit soyez sobres, parce que ce projet de sanctification, c'est une entreprise sérieuse et un grand projet. Ce n'est pas facile, mais le travail difficile, en fait, c'est de croire et de recroire et de se prêcher et de se reprêcher l'Évangile. C'est ça le travail difficile dans cette sanctification, c'est de croire et de recroire l'Évangile. Je suis sûr que si cette semaine vous étiez convaincu que Jésus, que Dieu vous aime, qu'il vous approuve parfaitement, qu'il vous accepte parfaitement, eh bien, il y a une quantité de choses que vous n'auriez pas fait. Il y a des peurs que vous n'auriez pas eues. Il y a des recherches de convoitise que vous n'auriez pas eues. Il y a des recherches d'approbation, d'amour des autres, de notre entourage, cette peur de ceux qui pensent de nous. Cela n'aurait pas eu lieu encore cette semaine si vous étiez vraiment convaincu de l'Évangile, si vous le croyez vraiment. Si moi je le croyais vraiment, c'est ça. Alors, plus on revenir à vraiment croire l'Évangile. Dieu nous accepte. Dieu nous voit parfait en Jésus-Christ. Mais ça nous livre. On a l'attrait des convoitises, comme il dit, la convoitise. On cherche dans ces convoitises une sécurité, une solution, un confort, un bonheur, une réputation. Ben, si on est convaincu que Christ nous les offre dans l'Évangile et qu'on n'a plus besoin, ben on est libre. On est donc du coup libre d'obéir. Donc le travail difficile pour le chrétien, c'est de croire, recroire, de ressavoir que voilà, on a été racheté, on a été racheté par le sang précieux de Christ, c'était pour nous, tout ça c'était personnalisé pour nous, maintenant on peut avancer. Il dit, saignez les reins de votre entendement. C'est dans l'entendement que ça se passe, c'est dans la pensée, c'est ce travail de croire, de recroire l'Évangile, de re-remplir l'entendement avec les vérités de l'Évangile. Ça nous libère d'obéir et de vivre une vie sainte qui plaît à Dieu. Que Dieu nous vienne en aide et qui nous permet de placer encore cette pièce de l'Évangile, puissance 4, pour avancer dans la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser un pasteur peut-être terminer par la prière ou un cantique. Merci.